Kazanov pour le journal d'Haïti et des Amériques.
Merci Anne Mignard. Il est 9h10 à Port-au-Prince. Ce dimanche, ça fera un an, tout juste, qu'un séisme meurtrier a ravagé le sud-ouest d'Haïti. Un an après, vous l'entendrez, de nombreux sinistrés déplorent un manque d'aide humanitaire et de l'État. La reconstruction aussi avance très lentement. Au programme également, ces révélations du Washington Post qui croit savoir que les documents que le FBI cherchait chez Donald Trump ont un lien avec des armes nucléaires. Et puis comme tous les jours, l'actualité ultramarine. Au programme, Benoît Ferrand, le combat contre l'insécurité en Guyane.
Un combat que l'État et les collectivités locales guyanaises vont tenter de mener ensemble. Des assises seront d'ailleurs organisées dès le mois prochain.
On vous retrouve dans une quinzaine de minutes, Benoît.
L'Écaille, 106.9 FM.
Haïti s'apprête à rendre hommage aux plus de 2200 personnes tuées lors du séisme de magnitude 7,2 dans les départements du Sud, des Nippes et de la Grand'Anse. Cela fera un an, tout juste ce dimanche, un an après. Les familles victimes de la catastrophe n'ont toujours pas retrouvé une vie normale. Les sinistrés se sentent complètement abandonnés par l'État et les organisations humanitaires, comme cet Haïtien qu'Amélie Baron a pu joindre.
Le 14 août dernier, Marcel François a vu sa vie basculer. Pendant plus de 5 heures, lui et sa fille, âgée d'à peine quelques mois, ont été ensevelis sous les décombres de leur maison, totalement détruite par le séisme.
C'est quelque chose qui restera à jamais gravé dans mon esprit. C'est une date inoubliable parce que jusqu'à aujourd'hui, je me considère comme un survivant. Mais ce qui me fait mal, c'est que je constate la faiblesse de l'État. Jusqu'à maintenant, je n'ai bénéficié d'aucune aide. J'ai eu des proches tués, des amis ont perdu aussi des gens. Nous sommes vraiment dans une situation critique.
S'il s'est remis de ses blessures, ce trentenaire qui vit au CAI est dépité du sort qu'est le sien aujourd'hui.
Ça va de mal en pire. Non seulement on n'a pas bénéficié d'assistance, mais il y a tous ces problèmes de gangs sur la route qui nous permettraient de s'approvisionner en nourriture, vu qu'aucune instance ne nous fournit de l'aide. Personne ne s'est soucié de savoir comment je vivais après que ma maison a été détruite. Aucune démarche n'a été menée pour savoir où je vivais aujourd'hui. Il y a toujours des gens qui vivent dans des abris ou dorment à la belle étoile à subir la pluie et le soleil. Moi, j'ai eu de la chance d'être en bon terme avec un ébéniste. Il s'était construit un petit atelier pour travailler le soir. C'est là qu'on dort avec ma famille. Je n'ai pas d'autre solution.
Survivre dans un abri de quelques mètres carrés seulement avec sa femme, sa fille qui va bientôt avoir 2 ans et son frère de 28 ans, Marcel François considère que le reste du pays et surtout les autorités et habitants de Port-au-Prince les ont totalement oubliés.
Sincèrement, c'est comme si rien ne s'était passé au CAI. Ils nous ont abandonnés comme s'ils ignoraient notre existence. C'est comme si la République était divisée en plusieurs morceaux. Ici, manger est devenu un luxe. Et imaginons que j'ai la volonté de reconstruire une maison. Les matériaux sont devenus tellement chers. Je ne peux rien faire. Je n'ai aucun espoir.
Sans logement, sans travail, comme beaucoup de ses compatriotes, Marcel François pense aujourd'hui à l'exil.
Franchement, c'est parce que je n'ai pas trouvé d'opportunité pour partir que je suis encore dans le pays. En tant que jeune, on nous dit d'aller à l'école, on y va. On nous dit d'aller à la fac, on va à la fac. Et après ça, on ne trouve pas de travail. On a besoin d'une personne élue qui puisse apporter du changement. Mais je ne vois pas comment des élections pourraient être possibles en Haïti.
Voilà cet Haïtien joint par Amélie Baron. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Marion.
Le séisme a détruit des villages entiers, des écoles et de nombreuses infrastructures. Un an après, où en est la reconstruction? C'est la question qu'on se pose avec vous Stéphanie.
Et comme les bonnes nouvelles se font rares, Marion, je vous en propose une pour commencer. C'était pas plus tard que ce mardi, sur les rives de la rivière de la Grand'Anse.
Les 12 mois, eh bien, on continue. Constatez tout, et qu'il y a une impatience.
Dans cet enregistrement du journaliste Anderson Duvert, on entend le ministre haïtien des Travaux publics, Rosemont Pradel, qui a donc inauguré cette semaine un nouveau pont. Le ministre parle de l'impatience de la population parce que le séisme de l'an dernier a détruit le pont du Marais estimé, qui enjambe le principal cours d'eau du département de la Grand'Anse. Aucune voiture ou camion ne pouvait le traverser, ce qui a coupé le chef-lieu du département, la ville de Jérémy, du reste du pays. Depuis mardi, la circulation des habitants, mais aussi des marchandises, est enfin à nouveau possible.
Et Stéphanie, ce nouveau pont a été financé par la Banque mondiale.
Absolument, et c'est assez symptomatique de ce qui se passe dans les zones sinistrées par la catastrophe de l'an dernier. Les peu de projets en cours sont pour la plupart menés par la communauté internationale. À Beaumont, par exemple, situé à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Jérémie, les autorités locales espèrent la reconstruction prochaine de plusieurs infrastructures majeures de la ville détruites par le séisme. James Lafortune est le directeur de la mairie de Beaumont.
Pour le moment, on a un projet de reconstruction de l'hôtel de ville de Beaumont et le tribunal de paix. Là, on pourrait loger l'état civil, DGI, tout ça. Mais c'est un projet en cours avec le financement de Expertise France et ambassade de Suisse avec l'appui de Pagode. On a déjà lancé l'appel d'offres pour que certaines firmes viennent déposer leur dossier, mais c'est toujours un projet.
Est-ce que votre mairie a eu des fonds disponibles de l'État pour vous occuper des sinistrés et des problèmes dans votre ville ?
Complètement non.
Les mairies ne disposent donc pas d'argent pour venir en aide à leur population. Or, dans un pays où beaucoup de citoyens travaillent dans l'économie informelle, nombreux sont ceux qui ont tout perdu dans la catastrophe. À Aquin, une ville côtière du département du Sud, on ne compte plus les magasins et entreprises qui ne se sont pas relevés.
Malheureusement, il y en a qui ne peuvent pas ouvrir leurs portes parce qu'il y a des bâtiments qui ont été détruits. Ils n'arrivent pas à reconstruire et ils ont des dettes. Donc, ils ont pu abandonner, quoi.
Ginelle Chérémont est à la tête d'une petite entreprise de transformation de produits agricoles à Aquin. Le séisme a endommagé son atelier, mais depuis un an, c'est un autre problème qui lui fait perdre le sommeil. L'emprise des gangs, notamment autour de Port-au-Prince, mais pas seulement, coupe la péninsule sud et donc les zones sinistrées par le tremblement de terre de la capitale haïtienne et du reste du pays.
Pas trop d'impossibilité pour trouver des matières premières librement. Nous sommes à Aquin. Et il y a certaines choses qu'on peut trouver seulement à Port-au-Prince. Donc là, et ça paralyse nos activités. En fait, comme entrepreneurs, nous sommes en train de créer d'autres alternatives pour pouvoir remédier à cette situation.
Qu'est-ce que vous faites ?
Comme c'est un atelier de transformation, autrefois, j'achète les matières premières. Mais aujourd'hui, je fais la production également, je fais la plantation.
Et donc, à l'insécurité galopante, Stéphanie, s'ajoutent des pénuries de carburant.
Oui, sans parler du fait que la gourde, la monnaie nationale, perd chaque jour un peu plus de sa valeur et que le taux d'inflation dépassera bientôt les 30%. Ces difficultés économiques concernent bien sûr l'ensemble de la population haïtienne, mais dans les trois départements ravagés par le tremblement de terre, elles provoquent des situations insoutenables, dont l'aggravation de l'insécurité alimentaire.
Et c'est notamment le cas dans les sections communales.
Oui, les habitants de ces villages situés dans des zones rurales reculées survivent depuis toujours dans des conditions très précaires. Le tremblement de terre a entièrement rasé de la carte bon nombre de ces hameaux.
Beaucoup d'écoles également ont été détruites ou gravement endommagées.
Oui, l'UNICEF avait estimé que seuls 5% des plus de 2800 écoles que comptent les trois départements touchés étaient sorties indemnes de la catastrophe. Ginelle Chérémont est aussi technicien pour l'ONG franco-haïtienne Haïti Futur, qui équipe plus de 500 écoles en électricité et outils numériques. Après le séisme, aussi bien le gouvernement haïtien que la communauté internationale avaient fait de la reconstruction des écoles une priorité absolue. Mais sur le terrain, les résultats concrets se font toujours attendre.
Là, nous sommes un an après. Il faut qu'on fasse beaucoup de choses pour reconstruire les écoles. Il y a des écoles, malgré tout, qui ont travaillé sous les tentes. Même une école reconstruite, non, il n'y en a pas.
Et puis, se pose une question, combien d'élèves ne sont pas du tout retournés en classe après le séisme, ne serait-ce que sous les tentes ? Il n'existe pas de statistiques officielles, mais sachez que plus de 8 écoles sur 10 en Haïti sont privées et donc payantes.
Là, il y a un problème de transport, il y a un problème d'insécurité et tout augmente. La hausse des prix des produits de première nécessité pose problème et ça touche les parents parce qu'il faut qu'ils vendent des produits pour pouvoir payer l'école.
Alors que peuvent faire aujourd'hui les ONG sur place, Stéphanie ?
Eh bien, il est évident, Marion, que l'effondrement des institutions haïtiennes, l'insécurité, l'inflation, la pénurie de carburant, pèsent également sur l'action des organisations non gouvernementales. De plus, elles manquent de moyens. Haïti n'est pas le seul pays en crise, comme vous le savez, et les donateurs se font plus rares qu'auparavant. Tous ces facteurs limitent la marge de manœuvre des ONG, explique Rosa Paredes-Canela, directrice de programme d'ASB. Après le séisme d'août dernier, cette ONG allemande avait fourni de l'eau potable à 140 000 personnes dans les départements sinistrés grâce à 5 filtres mobiles. Mais les interventions d'urgence menées par l'ASP et les autres ONG ont pris fin depuis des mois.
Les ONG marchent à leur rythme comme elles peuvent, mais les ONG ne peuvent pas remplacer l'État. C'est une réalité qu'on ne peut pas cacher.
Ça veut dire que face à toutes ces difficultés, en fait, le sort des sinistrés du séisme d'il y a un an n'est plus une priorité ?
Bon, c'est une priorité, mais comment le faire ? C'est-à-dire, tout est une priorité en ce moment. Apaiser le pays est une priorité. C'est-à-dire, nous sommes dans une action humanitaire continue, avec une famine énorme, avec des déplacés internes énormes. La population n'en peut plus.
Alors, pour finir, Marianne, si vous voulez bien, j'aimerais bien que l'on retourne un instant à Beaumont, dans le département de la Grand'Anse. Le directeur de la mairie, James Lafortune, appelle la communauté internationale à investir maintenant dans de véritables projets de développement.
Il y a beaucoup de gens qui sont toujours en phase de situation d'urgence, mais les urgences sont passées. Maintenant, il doit y avoir des choses plus concrètes. On est une commune agricole, c'est d'aider ces gens-là pour qu'ils aient un meilleur rendement de leurs produits, un appui économique pour qu'ils puissent cultiver la terre et des projets de transformation de leurs produits. Et là, ils pourront se relever tout seuls avec l'agriculture.
Voilà, merci Stéphanie Schuller pour ce dossier. On retient donc que la reconstruction avance très lentement en Haïti. Restons d'ailleurs en Haïti pour la revue de presse. Christophe Paget nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Et la presse haïtienne s'intéresse à une interview accordée au Miami Herald par Luis Almagro, le chef de l'OEA, l'Organisation des États américains.
Luis Almagro, favorable au retour des casques bleus et une nouvelle constitution en Haïti, titre Le Nouvelliste. Raison invoquée par le diplomate, la situation d'insécurité, la crise économique et le dysfonctionnement des institutions. Lundi, dans un communiqué, l'OEA avait admis sa culpabilité dans la destruction d'Haïti, titre Alter Press, reprenant le quotidien The Nation. Mais la tragédie est telle, estime le journal américain, qu'étant donné l'état dans lequel la communauté internationale a laissé le pays, la République d'Haïti ne peut tout simplement pas résoudre seule ses problèmes. Ce qui nous ramène à cette éventuelle intervention des casques bleus défendue par le chef de l'OEA, qui parle d'une ligne d'action à envisager très sérieusement. Nous sommes ouverts à d'autres propositions, précise-t-il, tout en estimant que pour arriver vite et avec la logistique appropriée, le moins difficile, c'est de passer par des procédures et des mécanismes bien appropriés, des procédures et des mécanismes établis qui existent déjà avec les missions de maintien de la paix. À la lecture de cette interview, le Nouvelliste s'interroge. Quel est l'intérêt du dossier d'Haïti pour Luis Almagro au point de lancer cette campagne médiatique ? Parviendra-t-il à convaincre une majorité de pays lors du prochain Conseil permanent de l'OEA sur ce dossier ? Quelle sera la position du gouvernement d'Ariel Henry ?
Aux États-Unis, à présent, le ministre de la Justice, Merrick Garland, monte au créneau dans l'affaire de la perquisition par le FBI du domicile de Donald Trump en Floride.
« J'ai personnellement approuvé cette perquisition », affirme le procureur général des États-Unis, repris par Politico, qui précise que Merrick Garland va révéler le contenu du mandat de perquisition. Donald Trump l'en avait en quelque sorte mis au défi, sachant que l'ex-président possède lui-même une copie du mandat. Merrick Garland prend au mot Trump, titre le Washington Post. Son objectif, explique The Hill, défendre l'intégrité du FBI, attaqué entre autres par des chaînes d'information en continu, qui sont allées jusqu'à suggérer que le FBI pourrait avoir placé des preuves compromettantes à Mar-a-Lago. Le ministère de la Justice annonce aussi que l'inventaire de ce qui a été pris dans la demeure de l'ancien président va être rendu public. Alors que va-t-on y trouver ? Et surtout, qu'est-ce que le FBI cherchait pour aller jusqu'à perquisitionner la demeure d'un ancien président ? La source du New York Times parle de documents d'un niveau de confidentialité supérieur à top secret, réservé aux opérations sensibles menées à l'étranger ou aux technologies sensibles. De fait, selon les informations du Washington Post, et c'est en une du journal, le FBI cherchait entre autres des documents classifiés en rapport avec rien de moins que des armes nucléaires.
Oui, un échange d'ambassadeurs à présent entre la Colombie et le Venezuela après 3 ans de rupture.
Dès l'arrivée de Gustavo Petro au pouvoir en Colombie, les relations s'étaient réchauffées. Félix Plasencia est donc désigné ambassadeur du Venezuela en Colombie, annonce Ultimas Noticias. Félix Plasencia, ancien ambassadeur en République populaire de Chine. Selon le journal, le président Maduro a aussi annoncé la mise en place d'une équipe spéciale pour traiter de la situation en Colombie. Elle devra entre autres voir quand doit être annoncée la réouverture des frontières. Le nouvel ambassadeur, cette fois de Colombie au Venezuela, se nomme Armando Benedetti, un des poids lourds de Petro lors de sa campagne électorale, note Efecto Cocuyo. Bref, un nouveau pas vers la reprise des relations, conclut El Tiempo.
Mais la Colombie, Christophe, qui veut aussi reprendre langue avec les rebelles de l'ELN. Pour cela, elle a envoyé une délégation à Cuba.
Oui, le ministre des Affaires étrangères, Alvaro Leiva, annonce la reprise du dialogue avec l'ELN, titre El Heraldo. On écoute de Cuba le ministre colombien.
Aspiramos a reanudar.
Nous souhaitons relancer le dialogue avec l'armée de libération nationale, l'ELN, sur cette terre de paix, afin d'ouvrir le chemin proposé par le président Petro vers une paix totale.
Était aussi présent à Cuba le haut-commissaire colombien pour la paix, Dailo Rueda, qui a été autorisé, précise El Universal, à rentrer directement en contact avec l'ELN pour vérifier si, comme la guérilla l'a annoncé, il y a une possibilité de relancer les négociations ou d'une trêve bilatérale. Le dialogue avec l'ELN avait été suspendu début 2018 après une attaque contre des policiers.
Enfin, au Brésil, manifestation pour réclamer la démocratie et le système électoral brésilien.
Oui, dans plusieurs grandes villes du pays, à Rio de Janeiro étaient présents, malgré la pluie, Notodia, des étudiants, des travailleurs et des membres de mouvements sociaux et de syndicats. Tous réclament, vous l'avez dit, la démocratie et défendre le système électoral attaqué par le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Tout cela est résumé dans une charte de la démocratie qui a dépassé hier notre Folia de Sao Paulo, le million de signatures.
Et c'était la revue de presse de Christophe Paget.
Le journal de l'Outre-mer.
Et à la une, en Guyane, État et élus locaux main dans la main pour lutter contre l'insécurité. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Marion, ils étaient tous là, ou presque, hier après-midi. Le préfet Thierry Kefelec, le président de la collectivité territoriale Gabriel Serville, des représentants des trois municipalités de Kourou, Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni, tous se sont mis d'accord pour organiser des assises sur le sujet en septembre. En attendant, l'État doit mieux assumer ses missions régaliennes. C'est en tout cas l'avis du président de la CTG, Gabriel Serville.
Nous savons également qu'il y a un certain nombre de dispositifs au niveau national que nous pouvons mobiliser pour pouvoir mieux accompagner le développement du territoire, parce que je considère encore une fois que l'insécurité, c'est souvent une conséquence sur d'autres paramètres sur lesquels on n'a pas été bon, on n'a pas été parfait. Donc il s'agira de faire un travail en amont, bien évidemment, pour éviter que les problèmes ne surviennent. Mais il faudra aussi que lorsque les problèmes surviennent, lorsqu'il y a de la délinquance comme celle que l'on voit aujourd'hui, eh bien que le niveau national, que le pénal puisse entrer en action et que les sanctions soient appliquées de la manière la plus sévère qui soit.
Gabriel Serville, président de la collectivité de Guyane, au micro de Patrick Clark. Sachez également que lors de cette réunion, le préfet Thierry Kefelec a annoncé que le renforcement des contrôles de passagers à l'aéroport de Cayenne avait permis d'empêcher sur les 6 premiers mois de l'année le transit d'une tonne de cocaïne vers l'Hexagone. Direction la Guadeloupe, qui accueille en ce moment un très célèbre enfant du pays, le judoka Teddy Riner, venu préparer sur son île natale les championnats du monde et surtout les JO de 2024 à Paris.
Le stage était 15 jours. Là, ça touche à sa fin. Il reste 3-4 jours. C'était la reprise avant les championnats du monde. Gros bloc de préparation physique. Et ensuite, là, on va enchaîner pendant un mois quand même, différents pays où là ça va être axé judo. C'est ici que j'ai mes racines, mes parents, ma famille. Quand je peux, je viens me reposer. Quand je peux, je viens me sentir chez moi. Ça me fait du bien, ça fait du bien à ma famille. Et puis maintenant qu'on a trouvé aussi ce moyen de venir faire les préparations physiques ici, c'est plutôt cool aussi. Quand je regarde mon palmarès ou bien là où j'en suis, j'ai pas de pression à avoir. C'est les autres qui ont plus de pression. Hein. Moi, c'est que du bonus. Mon objectif, il est clair. C'est les Jeux 2024. Je vais m'entraîner dur. Après, il y a ce championnat du monde qui se présente. Je vais y aller. Ça va me permettre de, 1, aller chercher la concurrence, 2, aller chercher des points, et 3, savoir où j'en suis en vue des Jeux Olympiques de 2024. Quand je vois comment je m'entraîne, comment je progresse actuellement, il n'est pas impossible que je continue après 2024. Je suis jeune, j'ai des gens qui pensent à mon après-carrière, même si je surveille. Pourquoi pas continuer, prendre du plaisir sur ces tapis, tant qu'il y en a. Vive sans regret.
Vivre sans regret, signé Teddy Riner. Bon après-midi Marion, bon week-end, à lundi.
Et merci Benoît Ferrand, à lundi. C'est ainsi que s'achève le journal d'Haïti et des Amériques. Merci à Raphaël Belon qui était à la réalisation aujourd'hui. On se retrouve lundi donc à la même heure, 13h10, temps universel.